répond immédiatement, c'est ça. La formule, c'est ce que vous avez adopté. C'est ça. On répond.
Bon,
D'accord. Vous savez, dans les propos de M. Denon, il y avait un élément de réponse. Il a donné une définition de la démocratie. Si vous vous souvenez, quand il disait il faut prendre la parole, on n'a pas besoin d'être un expert pour la prendre. N'est-ce pas? Je pense que au niveau local ici, je pense qu'il faut absolument envisager cela. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se font, qui se disent au nom de la démocratie, au nom de la liberté, la presse, au niveau d'autres concepts qu'on amène. Ça, mais ce qui est fondamental, qui ne remplacera jamais, c'est-à-dire qu'on ne réussit jamais à vous prendre à vous-même. Parce que ce qui se passe généralement dans la société, on est tellement submergé à les discours de consumérisme que notre vie elle-même nous échappe. Et je crois que c'est le problème fondamental que je crois avoir eu l'impression d'avoir identifié en Amérique. En fait, on a tendance à vivre la vie qu'on nous propose de vivre et de vivre la vie qu'on a envie de vivre. Ça, et ça, d'abord, la souveraineté commence à quand on parle de démocratie, c'est la souveraineté au niveau mental d'abord. C'est-à-dire que l'espace idéologique est rempli. L'Internet, c'est bien, c'est l'espace de l'espoir, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a une surabondance de choses, de propositions. Et malheureusement, pour nos frères occidentaux, étant donné que l'histoire contemporaine a fait en sorte qu'ils ont triomphé, ils ont en même temps occupé l'espace idéologique, n'est-ce pas? Et dans la tête de leurs propres enfants, on a mis dans leur tête qu'il n'y a de bonne vie que leur manière de voir les choses, n'est-ce pas? À tel point que lorsque vous êtes sensibilisé à cette réalité, vous tombez dans une sorte de paranoïa, je veux dire intellectuelle, c'est-à-dire, c'est mon cas aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai tendance à devenir paranoïa parce que j'ai tendance à, lorsque les gens me tiennent un discours, j'écoute le discours évidemment, mais j'ai tendance à l'apprécier en fonction de mon être, de ce que je veux, n'est-ce pas, pas comme personne, mais comme personne appartenant à une entité déterminée. Par exemple, si vous prenez la question qu'on a tant débattue ici par rapport à ce qu'on appelle les accommodements raisonnables, lorsque j'aborde cette question-là, je me dis, comme néo-canadien, ou néo-canadien, n'est-ce pas, qu'est-ce que ça signifie pour moi ce concept-là? Et donc, la réponse, la meilleure, c'est celle que M. Denon va donner en disant de plus en plus, vous n'avez pas besoin d'être un expert, il faut prendre la parole. Et comme vous, vous êtes un candidat, n'est-ce pas? Vous êtes candidat, j'imagine que vous êtes candidat pour la députation, n'est-ce pas? C'est ça? Alors si vous êtes candidat à la députation, est-ce que vous allez vous inscrire dans les grands chemins présentés par les modèles Inc. N'est-ce pas? C'est ça la question. Où vous voulez vous investir dans la société pour que les gens soient mieux. N'est-ce pas? Je n'ai pas des réponses. Je m'interroge comme vous. N'est-ce pas? Moi, je ne peux pas vous donner une réponse définitive à la question. Mais je vous renvoie à l'élément que je trouve très intéressant parce que lui, il vous a dit carrément ce qu'il faut faire. Il ne faut pas vous laisser imposer n'importe quoi. Or, actuellement, à cause de l'homogénéisation de l'espace idéologique, c'est ce qui se passe. Il y a un certain nombre de gens qui... On va parler de pluralité de l'information. Vous savez, il y a toute une série de choses. Je peux discourir longtemps là-dessus, mais ça ne sert à rien. On va pas vous dire la liberté de la presse, la pluralité de la presse, tout ça c'est nécessaire à la démocratie. Mais en réalité, quand vous regardez, il y a les grandes agences. Et je suis sûr que si vous prenez les devoirs, la presse et autres, vous allez voir à peu près la même chose qui se passe. Et à un moment donné, la personne citoyenne, finalement, organisée et orientée, et n'a pas d'espace pour développer sa propre conception des choses. Et c'est ça qui, aujourd'hui, était une des raisons pour laquelle, dans la conclusion de mon livre, je dis quelque chose de méchant sur la presse. Je parle de la tyrannie médiatique. Et dans le dernier livre sur la gouvernance de l'environnement, c'est le discours que j'ai tenu devant mes compatriotes à Bamako, je parle des crimes médiatiques. C'est ça. Les criminels médiatiques, c'est quoi? C'est tous ces gens, finalement, au nom de la liberté de la presse, finalement, reproduisent et font une représentation culturelle, en ce qui nous concerne, de l'Afrique et des Africains, qui fait en sorte que les Africains en arrivent même en intégrant, donc il y a une réaction psychosociale qui s'opère, en intégrant les discours de l'autre sur eux, finalement on arrive à avoir le mépris de ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, le résultat, c'est que l'Afrique, pour beaucoup d'Africains, les enfants, je ne connais pas d'enfants qui me disent, veuillent fuir l'Afrique, parce que l'Afrique est présentée comme un pandémonium. Il suffit que ce soit la presse parlée, la presse écrite, l'Afrique, ça ne vaut rien, quoi. Et donc, les enfants qui ont grandi dans cette vision de l'Afrique, finalement, et ensuite, voient la réalité qu'il y a des dictateurs et toutes sortes de choses, ne font que dire que l'Afrique, c'est un enfer, parce qu'on n'a pas pris la liberté de réfléchir et de penser par nous-mêmes.
Oui. Alors, à la question suivante.
Barnabé Gabé, je suis du Congo Brazzaville, donc voisin à notre Congo. Je voudrais revenir sur la question du premier intervenant. La science historique a été surprise en flagrant délit par Cheikh Ould Diop et d'autres. Là, je n'ai choisi que des écrits historiques. Ensuite, les dénonciations de ce genre ont toujours existé. Donc la question qu'il posait, je reviens à sa question parce que j'interviendrai un peu plus tard sur mes propres idées, je reviens sur sa question. Il est en train de demander, mais oui, on dénonce, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Là est la véritable question. Concrètement, qu'est-ce que ensemble nous pouvons faire? C'est vrai, on peut voir ensemble avec les Occidentaux, essayer de conscientiser, essayer de faire prendre conscience aux Occidentaux de ce qui se passe en Afrique réellement. Oui, on peut le faire. Même ici, ces Occidentaux qui sont exploités, je parle plutôt que de quoi tu veux, par exemple, son indépendance, qui n'arrive pas à l'avoir. Donc, je reviens à la question simplement, j'ai dit que j'interviendrai pour un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? La question s'adresse, je veux vous laisser reposer, je veux venir à vous. Je veux parler à monsieur Delors, c'est ça? Monsieur Delors, et puis, j'ai oublié le nom,
Paul Fosse.
Paul Potts, j'étais contre. Comme Paul Kagame, je suis contre. Alors, ce qu'il faut faire, moi, il y a un terme que moi, je rejette, c'est le mot occidental. Moi, je ne comprends pas ce mot-là, parce que c'est une création de l'esprit. Là, en partant, on est une définition. Des gens ont créé cette idée d'occidental avant c'était chrétien. C'est d'où ça vient, puis c'est tellement vague et c'est tellement une façon de cacher la vérité. Et il y a un autre synonyme, parce qu'il en a parlé des mots ça va mouiller la communauté internationale. Je n'ai jamais vu un mot aussi imprécis, un terme aussi imprécis, mais à souhait. Et je pense, en tout cas, on commence par un vocabulaire. Là, il y a j'ai vu que M. Diarra a parlé subsaharien. Moi, quand j'étais en Afrique, au début des années 70, on parlait de l'Afrique, l'unité. Alors, et même, je sens souvent dans les écrits européens, puis ça, c'est peut-être la question que je me pose, ils parlent toujours de l'Afrique subsaharienne. Mais à ce moment-là, moi, je lis ça comme un préjugé, parce que c'est une volonté de séparer ça selon la couleur, selon un concept qu'ils auraient de l'Afrique, une conception de l'Afrique qui serait divisée selon leurs propres préjugés. Mais, donc, je dirais...
C'est la même chose pour occidental?
Occidental, je ne le comprends pas, le terme occidental. En anglais, il parle Western, the Western World. Je pense que c'est une création, une volonté de certains de dominer, mais je maintiens que, moi je pense que souvent ces choses-là sont faites pour diviser et non pas pour chercher qu'est-ce qui est commun à l'humanité. Ce qui est commun à l'humanité, l'histoire du Rwanda et de l'Afrique centrale est un drame humain terrible, mais on applique une autre grille d'analyse à cause de cette conception de l'Occident et l'Afrique. Donc, je ne permettrai pas à aborder le sujet de la deuxième guerre euro-occidentale avec un simplisme qu'on va utiliser pour regarder un drame humain en Afrique. Donc, je pense qu'il y a énormément de travail à faire juste sur le vocabulaire, la façon dont on parle de ces sujets-là. Puis déjà, si on réussit à faire ça, on change la donne un peu. Mais je dirais qu'on a des gens qui complotent pour cacher la vérité avec des mots, avec des... J'arrêterai ça. Le Congo, la brume de guerre qu'ils ont créée autour du Congo est faite justement pour qu'on ne le comprenne pas. Et je pense que qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on cherche la vérité, on cherche à dire la vérité avec la plus de clarté possible. Alors, moi,
parce que j'ai posé cette question, je pense que les personnes sont d'accord. J'ai posé cette question. Parce qu'en Afrique, les préoccupations sont tout autres. Les gens ont faim.
Ouais.
Les gens ne mangent pas.
Ouais.
C'est pas comme nous ici, on a mangé et puis on peut se réchauffer. Donc là-bas, les gens ne mangent pas. Alors, quand on leur fait ces dénonciations-là, qu'est-ce que ces gens-là doivent faire? C'est ça ma question. Concrètement.
Ouais. Même à ça, sans avoir une pensée claire comme il y a eu dans la période d'indépendance, les mouvements d'indépendance, la faim va continuer. Il va y avoir des révoltes et jacqueries, comme quelqu'un avait dit tout à l'heure, mais sans une pensée claire sur ce qu'il faut faire en Afrique ou ici. Ça va être juste des révoltes ici et là que vous allez avoir. Alors, c'est que je pense que ce n'est pas si différent que ça. C'est problème de définir le problème.
Parce que, docteur, j'avais déjà dit que ces dénonciations étaient faites. L'impérialisme, par exemple, on se concerne le Congo. On a parlé de l'impérialisme français, c'était clair. La France vient, pille tout, le pétrole congolais. L'impérialisme est là, donc on a tout défini ça. Et à l'époque, nous faisions la révolution marxiste.
Ouais.
Malheureusement, aujourd'hui, les camarades qui étaient marxistes ont changé de veste.
Ouais.
Donc c'est pour ça que aujourd'hui, faire seulement la dénonciation, oui, c'est bien. C'est bien, mais nous voulons.
J'aimerais peut-être intervenir. Parce que cette question-là, vous avez pas senti.
Attendez, concentrons-nous.
Cette question-là date de Lénine, en fait, c'est le mais toujours à bon escient, évidemment. La question qui m'apparaît fondamentale, nous, on nous a souvent reproché de rien proposer dans le livre, qui est d'ailleurs faux. Hein. D'ailleurs, il y a des propositions, mais on n'a pas estimé que, d'une manière ultime et absolue, on devait comprimer l'histoire dans un livre, par exemple, dans une sorte de solution, une trousse, ou sinon, on commence à proposer des choses qui ressemblent dangereusement à tout ce qui a l'étiquette de gouvernance, puis toute la quincaillerie qui s'ensuit. Et il y a quelqu'un qui concocte ça habituellement, là, c'est pas sans intérêt, quoi. Faut dire, moi je dirais rapidement, là, qu'actuellement il y a un problème qui tourne autour du concept de souveraineté. Parce que la souveraineté aujourd'hui, elle est très fractée, si elle l'a pas toujours été. En fait, elle est clairement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entités aujourd'hui qui peuvent, en quelque sorte, prétendre contrôler la souveraineté ou être absolument souveraine. C'est-à-dire que les États bénéficient toujours d'une souveraineté politique qu'on leur connaît parce qu'ils sont capables de dépêcher des armées, prendre des décisions, signer des traités, ainsi de suite. La souveraineté, qu'est-ce que c'est de peser dans le cours de l'histoire. C'est faire en sorte que lorsqu'on prend une décision, qu'on tranche, qu'on choisit, il y a des répercussions historiques. Je veux dire, si dans mon salon, je décide, je ne sais pas, moi, que je veux dire, qu'on hausse le salaire minimum, ben, il ne se passera rien parce que ma décision n'est pas souveraine. Quoi. Mais si le ministre du Travail le fait, comme il a une souveraineté, ben, après, c'est avalisé dans un Parlement, bon, il y a une souveraineté, il y a une transformation dans l'histoire. Bon. Si on prend cette définition-là, effectivement, l'État est souverain, en mesure où il peut peser sur le cours des temps, mais pas seulement. Les multinationales, aujourd'hui, sont souveraines. Il y a une souveraineté de l'économie. Et ça se passe souvent, d'ailleurs, dans les paradis fiscaux ou ailleurs. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs économiques qui peuvent, sans passer par l'État, décider de guerre, décider d'exploitation, corrompre, piller, ainsi de suite. Ça, il y a une souveraineté, là. Il y a deux souverainetés qui s'opposent, on pourrait dire. Une souveraineté étatique qu'on peut essayer de contrôler, une souveraineté offshore ou financière qui, elle, s'impose. Mais il y en a d'autres aussi. Et la troisième souveraineté, c'est la souveraineté populaire. C'est le fait que lorsque le peuple se bloque la Hongrie, ben là, le pouvoir chavire. C'est le fait que, sur, ici, il y avait le projet d'exploitation, là, le Mont Harford. Là, il y avait de la souveraineté populaire. Qu'est-ce que c'est? C'est que les gens, à un moment donné, en brouillant, en faisant des tracts, en faisant des livres, en parlant à la radio, en étant des gens, quoi, en faisant ce que font des gens, quoi, ensemble, arrivent à peser dans l'histoire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'histoire, elle mérite toujours d'être vécue. Il n'y a personne qui peut la prédire, et il n'y a personne qui est assez souverain pour déterminer d'avance comment les choses vont se passer, comment elles vont prendre ou comment elles ne prendront pas. Et c'est pour ça que, dire, le travail consiste moins à avoir une sorte de quincaillerie dans laquelle il y aurait toutes les solutions, qu'à agir dans l'histoire, dans le but qu'on pèse sur le coût historique des choses.
Je voudrais juste avancer quelque chose aussi. En ce qui concerne aussi le problème, la crise de la faim, parce que je pense qu'on n'a pas nécessairement touché tous les sujets, mais il y a des sujets qui valent la peine, en fait, qu'on s'interroge sur les décisions qui ont été prises dans le passé, justement le point présent où on se trouve, et nos actions face à ça pour changer le cours si on est dans la mauvaise direction, ou en fait garder le cap vers un meilleur point si on est dans la bonne direction. Mais je pense que, bon, en tout cas, ce qu'on fait avec le mouvement Jeunesse de la Rouche en ce moment, c'est qu'on a lancé, et déjà, ben, vous savez sûrement, il y a eu la conférence à Rome du FAO, de l'Organisation de nourriture de l'ONU, qui a eu lieu il y a 2 semaines. Et on avait lancé déjà avant ça un appel international que vous pouvez signer. On a la copie ici en arrière, pour doubler dès maintenant la production de nourriture. Et ça, on appelait, en fait, les États qui veulent se dire vraiment souverains à justement bouger et faire en sorte qu'ils la vivent, cette souveraineté-là. Donc, je voulais juste rajouter ça. Je pense que c'est important de le mentionner.
Oui, avec le mouvement de la Rouche aussi, nous sommes partis, par exemple, en Ontario pour soutenir les propriétaires des terres et des fermes. Que le décision de la mondialisation a commencé à affecter le milieu rural en fermant les écoles, en détruisant les communautés rurales. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, nous allons passer maintenant. Peut-être que c'est la première question.
Oui, je m'appelle Montréal Bicot. Je suis. Ok. Donc, je suis Alors, moi, j'aimerais rebondir sur sais que je ne l'ai pas lu, hein. Matranza, je ne l'ai pas lu. Mais il m'a semblé comprendre que vous dénoncez vraiment tous les dégâts que les multinationales canadiennes peuvent causer en Afrique. Et que vous avez dit que l'action d'une bourse, le cours d'une action qui monte, quel est le prix payé pour le produit. Alors moi, depuis quelque temps, je m'intéresse un peu aux services financiers. Je sais que les Canadiens, je viens d'arriver au Canada depuis 2 ans, je sais que les Canadiens sont très préoccupés par la planification financière, à savoir fiscale, de retraite, ils sont vraiment obnubilés par la retraite. Il y a une foule de services financiers qui offrent des investissements où on ne parle que de déterminer le profit de l'investisseur et on ne parle que de rendement et de tolérance au risque, risque personnel. Alors, est-ce que les Canadiens sont vraiment informés que le rendement qu'ils obtiennent, quel est le prix du rendement qu'ils obtiennent? Qu'est-ce que vous faites, vous, par votre livre, pour informer vraiment ces épargnants canadiens qui se soucient de bonne guerre, de la retraite? Qu'est-ce que c'est le rendement de leurs investissements? Qu'est-ce que le mal que ça peut causer à ces pays?
Tout à fait intéressant de vous entendre. La question en fait rejoint la précédente, à savoir que faire. Parce que nous, sur le que faire, il y a 3 réponses. C'est d'une part, il y a 3 réponses qui sont d'ordre différent. Une réponse d'ordre législatif, ensuite juridique, ensuite financier, et là je vais y venir. Mais rapidement, législatif et juridique, c'est d'une part qu'il y ait une forme d'encadrement contraignant à Ottawa, envers les sociétés canadiennes agissant à l'extérieur des frontières, ce qui n'est pas le cas maintenant. Enfin, il paraît qu'il y a des articles de loi qu'on n'active pas trop, mais qui pourraient devenir contraignants. Et on fait en sorte dès qu'on agit à l'extérieur des frontières canadiennes, il n'y a plus personne pour nous contrôler, c'est ce qui fait du Canada un paradis fiscal. Donc ça, c'est la question. Et ce n'est pas par les rapports tels qu'ils ont, les rapports des tables rondes, par exemple, de 2006, là, tels que... qu'on le lit aujourd'hui, qu'on pourrait arriver à quoi que ce soit, parce que là, on milite pour la présence d'un ombudsman, alors l'information, on l'a pas mal, d'une part, et d'autre part, on souhaite des mesures incitatives, c'est-à-dire, en gros, on va donner des bonbons aux sociétés qui se comportent bien, ce qui n'est quand même pas le sort du commun des citoyens. Donc, il y a ensuite la question judiciaire, c'est pour ceux du criminel ici. Bon, et la question financière, elle est éminemment politique, parce que c'est par ce biais-là qu'on arrive à sensibiliser nos compatriotes ici au Canada. Quand vous te posez la question « qu'est-ce qu'on fait par rapport au livre pour faire en sorte que les Canadiens sachent mieux », ben, la réponse c'est le livre, on l'écrit, puis on en parle quoi. Et ça marche, vraiment.
C'est-à-dire que... Est-ce que vous faites des efforts en
direction
des sociétés d'investissement?
Ah, ben,
il y a dans les fonds éthiques, là.
Tout à fait. Sociologiquement, c'est sensible. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas capable, pour des raisons de compétences, mais aussi pour des raisons de même politique, de présenter une sorte d'éventail de produits financiers en disant investir. Parce qu'un problème il y a une question qui me pose problème avec les investissements d'irresponsables, c'est qu'on achète la responsabilité, ce qui est pour moi une aberration. La responsabilité, c'est une affaire politique, c'est une affaire de décision, c'est une affaire de pensée, c'est une affaire de choix. Quand on est responsable, il y a 3 choses en cours. On est prêt d'être coupable, on est responsable de quelque chose et qu'on a un rôle à jouer. Quand on est responsable, c'est qu'on répond d'une situation, on est dans une situation historique, on doit considérer qu'on agit dedans, et on répond à. On prend des décisions, on répond à quelque chose. Bon, ça ne s'achète pas dans un produit, ça. C'est beaucoup plus complexe. Mais il reste qu'effectivement, il y a un investissement responsable, c'est-à-dire qu'on peut s'enquérir de façon de placer ses sous correct. Là, il y a des débats, parce qu'il y a des fonds responsables, éthiques, qui sont crédibles, très sérieux. Il y en a qui sont totalement farfelus. Il y a par exemple Coca-Cola et la Barrick Gold dans certains fonds éthiques. Bon, mais là, on va nous dire, s'il y a Coca-Cola et la Barrick Gold, c'est pour qu'on puisse envoyer des gens à l'Assemblée des actionnaires et demander des réformes, quoi. Donc là, ça devient assez complexe, parce que là, on peut être dans des procès d'intention, et ainsi de suite. Il y a déjà ça. Mais notre position, elle est plus sociologique, je dirais, c'est que cette question-là, on en parle. Pourquoi? Parce que si on disait seulement aux Canadiens que leur société se comporte d'une façon tout à fait critiquable en Afrique, on nous répondrait « Ah, c'est malheureux, c'est pas très étonnant au fond, et puis qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est pas nous, puis le gouvernement, de toute façon, il est là pour qu'on le critique, puis c'est tout, c'est la fonction anthropologique, le gouvernement, il est là pour qu'on fasse sauter des ministres, puis qu'on les remplace, et c'est tout, quoi. » Bon, mais quand on dit aux gens, votre piscine creusée à Laval, votre voiture, si votre retraite dorée, hein, vous préparez à 55 ans, elle est financée, elle est étalonnée sur la base des investissements qui sont faits dans ces pays-là, et vous êtes complice de ça, et vous en tirez même des dividendes. Là, on les rejoint beaucoup plus. Et là, ça devient sociologique dans la mesure où ce qu'on dit ces jours-ci, à tous ceux à qui on parle dans le cadre de conférences, là, et ça, je ne fais pas une conférence sans en parler, c'est de se mobiliser individuellement ou collectivement. Là, il y a un syndicat de professeurs qui va m'inviter au mois d'août pour que je leur parle de ça, précisément par rapport à leur investissement de fonds de retraite. C'est de faire en sorte qu'on se mobilise collectivement ou individuellement pour qu'on aille voir, pour ne pas dire harceler, son représentant financier, son vendeur de police d'assurance, son responsable de banque, ainsi de suite, son courtier, pour s'assurer que l'épargne qu'on a n'aille pas dans ces sociétés-là. Et là, l'idée, sociologiquement, c'est que si le courtier se fait dire 5 fois par semaine, 10 fois par semaine, puis 15 fois par semaine par des gens qu'on veut retirer les sous, premièrement, il va perdre beaucoup de temps, ça va l'embêter. Les dossiers sur l'investissement responsable qui dépoussièrent, là, quand on lui pose des questions, ils seront là les premiers à sa droite, quoi, bon, ainsi de suite. Et là, il va y avoir une mobilité. Et c'est là que l'histoire doit être vécue.
C'est toute la technique. C'est toute la technique des investissements qu'il faudrait voir.
Ouais. Et à la Bourse de Toronto, à un moment donné, on y aura des exigences pour qu'on divulgue les raisons qui font qu'une société s'enrichisse. Et là, on sera de moins en moins dans un paradis judiciaire, parce qu'il va y avoir des contraintes, des punitions, etc. Et ça va venir avec le temps, mais sociologiquement, je ne pense pas que ça sera dans une trousse. Mais c'est quand les gens vont se bouger qu'il y a des gens qui vont réagir de l'autre côté. C'est ça la sociologie historique, quoi. C'est pas des think tanks, quoi. Et c'est vers ça qu'on avance, et on considère que le livre est... Puisqu'il explicite la chose, là, surtout dans le chapitre 4 sur la bourse, on estime que le livre est un outil, un instrument parmi tant d'autres là, pour arriver à une mobilisation.
Je voudrais adresser ma question à Mera, mais par les cochers, je vais parler à M. Filippo. C'est ça, Filippo,
hein? Les deux.
Et la présence canadienne au Congo, dans les différents conflits du Congo, vous disiez que ça remontait à 1990. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus ancien que ça. Au moment de la mort de Lumumba, les généraux canadiens ou colonels canadiens étaient affectés à la mission des Nations Unies. Ils devaient précisément protéger Lumumba, mais ils ne pouvaient pas protéger Kinshasa, qui a aidé à les oublier. Vous le saviez, ça?
Je le savais pas, mais ça ne me surprend pas.
C'est le général Van Horn.
Et je connais même un qui est encore vivant, il est ici à Saint-Adèle.
Ah, le général Baron.
Ouais. Bon, c'est ça. Donc, la présence canadienne, c'est pas nouveau.
Non.
Puis,
ah. Oui. Non, mais moi, mon point, c'était dans la période de la guerre au Congo, depuis 1996, le rôle du Canada est important sur le plan politique. Le Canada avait joué un rôle particulier pour remonter à son rôle dans les années 60 en Afrique et avant. Moi, je pense que c'était plus marginal que maintenant. Je pense que ça l'a été.
Que
la période depuis 90. Mais ça, c'est juste une observation. Sur le Canada, avoir une politique étrangère...
C'est souvent parce que le Canada a servi de prête-nom aux puissances qui ne voulaient pas faire apparaître comme étant des ennemis de la France ou des amis de la France ou de la Belgique. C'est pour cela qu'on a pris le Canadien comme étant neutre, le Canada étant censé être neutre, on l'a pris pour servir de prête-nom. Mais quoi qu'il en soit, Ce sont des faits qui sont là, vous avez des faits que vous ignorez. Ma question essentielle qui s'adresse à mon frère Diarra, c'est pourquoi au Congo, avec toutes les ressources qu'on a, on n'a rien fait jusqu'ici, en particulier les 40-50 ans, et on met toujours la faute sur les Belges, sur les Français, sur les Canadiens ou sur les Américains, les Américains. Et puis deuxièmement, du moins avant, j'aimerais que mon frère Dandou nous dise si l'hymne national est au nom et du moins en langue nationale, c'est quelle langue?
Je vais commencer par répondre à la question que justement les problèmes que Boniface, que Professeur Diarra a posé ici tout au début est réel, et au Congo on a commencé à y penser parce qu'il y a des groupes qui sont plus je pense que ce serait bien de promouvoir les cultures et les langues locales. Par exemple, on a les bouts congolais, fini par les soeurs, on chante maintenant à Congo. L'Otela Mavisi Congo, la Bundana Mokinsa. Donc, ces efforts ont commencé. Là-bas aussi, il y a des réflexions. Parce qu'ils disent, mais aussi longtemps que nous allons nous exprimer dans les langues étrangères, nous ne serons vraiment pas nous exprimer. Et ils reconnaissent même pas indépendants, on ne peut pas être souverain. Et pour vraiment exercer les droits d'expression, nous devons pour exprimer, nous exprimer, il faut nous exprimer en langue africaine. Alors, je pense qu'il y a des efforts qui ont commencé. Et qui sont vraiment frustrés, parce que ce n'est pas encore un mouvement qui serait. Quand le mouvement sera pour. Parce qu'au Congo, nous avons à peu près 450 groupes ethniques. Lorsqu'il y a un groupe qui commence, un deuxième, un troisième, nous pensons que ça va continuer. Au lieu seulement de chanter l'hymne national du Congo, on va le chanter en Chiliza, on va le chanter à Kutela, on va le chanter. Mais il faut que nos jeunes traduisent. Donc, c'est pour ça que nous comptons beaucoup sur les futures générations, c'est des traductions qui peuvent faire. C'est pas, on peut me les traduire, on peut même faire des traductions à partir de Montréal. Nous avons des jeunes qui apprennent la musique, qui sont à l'académie. Voilà ce que je peux dire. Alors, l'autre partie de la question, je pense que je laisse
reformuler votre question, c'est exactement.
J'ai dit que à l'observation, on a 46 ans de. Et durant ces 48 ans, ou après ces 48 ans, et malgré les ressources, l'immensité des ressources aussi bien naturelles qu'intellectuelles qu'on a générées au cours des 40 dernières années, malgré tout le capital qu'on a, le capital humain, le capital même, je dirais, financier, on n'a rien fait du tout. Et on met tout ça sur le compte de quelqu'un d'autre. On dit que c'est la faute de la France, c'est la faute de l'Allemagne, c'est la faute de la Belgique. Et, mais durant combien de temps encore, on va mettre cette faute à tous les autres. Est-ce qu'on se regarde, nous?
Je ne sais pas, mon discours a commencé par la projection du.
Le vieux fusillé.
C'est ça. C'est-à-dire que la philosophie, elle rejoint un peu, comme le disait un de mes frères, Bokilo, qu'en fait, lorsque la mauvaise herbe pousse dans la concession, il ne faut pas aller demander aux voisins pourquoi il y a la mauvaise herbe dans sa cour, il faut se poser. Et généralement, ce n'est pas une question simple, n'est-ce pas? Parce que l'Afrique, il y a eu la dépossession, c'est vrai, mais on ne peut pas tout mettre sur la dépossession territoriale. Il y a le fait qu'il y a des collabos, passe, c'est-à-dire qu'en fait, le colonisateur s'étant affaibli lui-même dans ses aventures de l'ici, a demandé à nos frères de gérer et a fait croire aux Africains, et on nous a fait croire que nous sommes dans des États indépendants. C'est ça. C'est-à-dire que, et donc il y a des mulets, c'est ce qu'ils voulaient. Une des raisons pour laquelle Yadema et l'autre là étaient en bagarre, c'était justement qui va être le plus gros mulet pour transporter. Bon. Mais pour revenir à votre question spécifique, mon opinion est que beaucoup d'entre nous n'ont même pas conscience que la culture du micronationalisme est une bombe à retardement. Parce que, et ça rejoint la question que vous faisiez, qu'en fait, si vous avez le temps de lire le discours que je fais à Bamako en 2006, qui est devenu un ouvrage que mon frère a bien voulu mettre à la disposition des lecteurs, vous verrez qu'il y a une question que j'aborde, la question écologique, mais pas l'enjeu écologique de la gouvernance, et l'enjeu culturel aussi de la gouvernance. Le problème, c'est que lorsque vous abordez la question de l'enjeu culturel, vous vous rendez compte que les Africains eux-mêmes n'ont pas la possibilité de créer leur propre concept. Et ce qui arrive, c'est que nous empruntons les concepts que les autres ont créés pour nous gérer, pour nous dominer. C'est ça. Et une des difficultés pour nous, justement, c'est de résoudre cette question fondamentale d'abord. Et historiquement, d'avoir la conscience claire que nous ne pouvons pas à la fois dire que de 1884 à 1885, à Berlin, Bismarck a réuni des gens, n'est-ce pas, qui sont venus sur la base du Hinterland, n'est-ce pas, du principe du Hinterland, n'est-ce pas, se sont partagés l'Afrique. Et continuer, et la cartographie politique encore de l'Afrique. C'est pour ça que lorsque on m'invite pour venir commémorer l'indépendance du Congo, n'est-ce pas, entre guillemets, je pose toujours cette question, est-ce que l'avenir de l'Afrique est dans la culture du micronationalisme? Ça, c'est une question. Et lorsque vous répondez à cette question, vous verrez bien que dans l'ouvrage, justement, le que faire, Lénine a posé la question, mais en même temps a apporté la réponse. Lénine a dit, écoute, vous avez du blé et que vous n'avez pas de bâton pour défendre votre blé, dans la concession donnée aux relations internationales depuis le XVIe siècle, n'est-ce pas, vous aurez de la difficulté, parce qu'une des raisons pour laquelle l'Iran, on veut tout faire pour que l'Iran ne puisse pas avoir la bombe nucléaire, c'est parce que si l'Iran a la bombe nucléaire, plus personne ne peut venir prendre le pétrole ou d'autres richesses de son territoire. Et pourquoi l'Afrique, en 1885, était vue comme la solution à la crise économique, n'est-ce pas, en Europe? Pourquoi aujourd'hui encore, devant la crise des matières premières, l'Afrique, la ruée vers l'Afrique, si vous voyez la Chine engagée dans sa stratégie de vassalisation de l'économie mondiale, et l'Occident, mordicus tenant coûte coûte à garder son privilège dans ce qu'elle a mis en place comme système économique depuis le XVIe siècle, n'est-ce pas, l'enjeu fondamental, c'est que les Asiatiques sont parvenus de plus en plus, n'est-ce pas, à marginaliser les institutions économiques internationales et politiques aussi. C'est-à-dire que si vous allez à la Banque mondiale aujourd'hui, vous demandez à quelqu'un d'aller en Chine en mission, et personne ne se précipite, ils se cachent tous dans leur bureau pour ne pas y aller. Mais lorsqu'on dit l'Afrique, les gens se bousculent à rang serré pour pouvoir aller en mission, tout simplement parce que pour le moment, les Africains eux-mêmes n'ont pas développé une conception d'eux-mêmes. Pour le moment, on n'a pas une conception de nous-mêmes. Et donc, ça, c'est l'handicap fondamental. Et la culture du micronationalisme, n'est-ce pas, je pense que d'autres pourrait dire quelque chose là-dessus, est le plus grand danger que nous, parce que tant qu'on aura des problèmes sociaux, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'avoir une maîtrise positive de notre nourriture, n'est-ce pas, ce qui se passe, c'est que n'importe quel, n'est-ce pas, partisan des développements de guerres privées, parce qu'il a eu raison. Dans l'analyse que j'ai faite par rapport à l'enjeu finalement écologique, c'est exactement ça. Qu'en fait, il n'y a pas de guerre tribale en Afrique, il n'y a pas de guerre religieuse ou autre. Il y a des guerres privées, point. Et ces guerres privées se justifient par le fait qu'il n'y a pas de direction politique. Lorsque Feu Boumediene, n'est-ce pas, en 1974, a fait son discours à la CNUSED, n'est-ce pas, une des raisons pour laquelle l'Algérie a été déstabilisée, ce n'est pas parce que l'Algérie, il y a des. Le fils est devenu. Non, parce que si l'Algérie était stable, l'Algérie aurait envisagé effectivement d'avoir l'arme décisive aussi. N'est-ce pas? Vous savez qu'en Afrique du Sud, les Français et d'autres Occidentaux étaient en train d'aider l'Afrique du Sud à développer sa bombe nucléaire. Mais lorsqu'il s'est agi que Nelson Mandela revienne au pouvoir, alors qu'on n'était pas certain encore, que Winnie Mandela serait mis dans les décors avec le procès, n'est-ce pas? Ils ont vite fait de démanteler.
Non, mais ils ont voulu comprendre une condition de sa libération, c'est de
d'arrêter
de démanteler.
C'est ça.
De pas non plus. Exproprier les terres qui appartiennent
aux... Oui, je n'ai pas toutes les réponses, mais j'essaie de vous donner.
C'est la première fois.
Non, mais je veux dire, je vous donne des éléments en vous disant si on pose la question que faire, l'Afrique est physiquement faible prodigieusement. Et n'importe qui pense que pour résoudre ces problèmes, il faut aller là-bas et prendre aux Africains. D'autant plus que dans les états fictifs qui sont comme la cartographie politique de l'Afrique actuellement, les régimes qui sont là sont une conception patrimoniale du pouvoir et de la gestion. En fait, la conception patrimoniale du pouvoir vient du fait que, je prends l'exemple du Mali, on décide de couper le bois dans une région qui est considérée comme en désertification. Alors, le chef d'État, dans son bureau, décide avec la Chine, il me construit, les Chinois viennent lui proposer, écoute, on construit un hôpital, et puis les bois d'ébène, la forêt d'ébène de Kita, là, est-ce qu'on peut aller payer, nous payer à nature, n'est-ce pas, en coupant cette forêt? Il ne consulte pas l'Assemblée. La gestion du pétrole, n'est-ce pas, qu'on puise au Congo Brazza. Hein? Oui. Bon. Lors du Mali, les gens de l'Assemblée vous demandaient à certains quelle est la part du Mali dans l'exploitation de son or. L'or ne repousse pas. N'est-ce pas? Les pétroles ne repoussent pas. Alors donc, vous avez à la tête de nos pays des gérants des entreprises étrangères qu'on appelle chefs d'État. Ce n'est pas des chefs d'État. Et quand vous analysez les conditions dans lesquelles ils sont venus au pouvoir, quand vous analysez les conditions dans lesquelles, le cas du Mali que je connais le moins mal, quand vous prenez le cas d'Amadou Toumani Touré, la première fois où il a été soi-disant élu, il n'était pas arrivé premier. Et le jour où on a proclamé, les images sont encore là, le jour où on a proclamé les résultats, dans la salle où a été proclamé les résultats, il n'y avait plus d'Occidentaux que des Maliens dans la salle. Non, mais je dis ça, je vais dire des héros, si vous voulez. Bon, je vais dire, on se comprend, n'est-ce pas? Alors donc, je vous dis, les tâches que vous devriez faire d'abord, c'est de vous engager résolument vers la non-culture du micronationalisme. N'est-ce pas? Ça, c'est la solution. Développer la condition première, c'est donner aux enfants africains l'estime d'eux-mêmes. Mais vous ne pouvez pas donner l'estime des enfants d'eux-mêmes quand ces enfants-là ne mangent pas à leur faim. S'ils ne mangent pas à leur faim, n'importe quel petit vendeur
qui veut une portion des richesses africaines, vient donner des armes aux gens qui sont frustrés. Moi, j'ai eu un gars qui a été mêlé à l'histoire des changements récents au Mali, qui est venu me voir ici à Chaud parce qu'il voulait changer de régime à Bamako, qui me dit, écoute, j'ai pris contact avec des amis en Guinée-Bissau, il va falloir pour dégager Alpha Omar qu'on arrive du pouvoir, il faut qu'on engage une guérilla au Mali. Je dis, mais même si, après il ajoute, même si on doit sacrifier 2 millions de Maliens, lui il est prêt à s'engager dans cette voie. Alors je dis à ce type-là, effervelé, je dis, mais est-ce qu'on commencerait par tes pères et mères et tes sœurs et frères, ensuite toi, parmi ces 2 millions-là, n'est-ce pas? Parce que tu sais, là où tu vas commencer, n'est-ce pas, à faire la guerre, mais tu ne sais pas où ça va finir. Dans la question de Tamashek, n'est-ce pas, au Mali, et en fait dans tous les pays finalement qui sont frontaliers du Sahara, n'est-ce pas, dans cette question également, il y a des gens qui vous viennent, n'est-ce pas, sans se poser la question de l'origine des choses. Je dis, mais vous savez, ces gens-là, à cause des pressions sociales, deviennent des moyens de négociation. Dès qu'on découvre les traces de quelques mines que ce soit, on voit que ces gens-là peuvent être manipulés elles-mêmes. Alors donc, moi je ne peux pas te donner une réponse définitive. Je te dis tout simplement, réfléchis à ces divers éléments-là.
Excusez.
Il y a M. Philbot qui voudrait.
Non, mais c'est juste, je m'excuse. Parce que je suis obligé de partir, j'ai un engagement à 6h30.
Parce qu'il nous reste juste quelques minutes.
Non, mais vous pouvez continuer, c'est juste.
Moi, j'ai juste la question. Ok, parce que le but de la question, c'est pas de. Je tiens à vous saluer de voir tous les cas, parce que je pense que peut-être. Trois listes qui sont ici, avec trois auteurs qui sont là, et chacun de nous doit sortir ici en se disant qu'on doit se battre pour que chacun tienne ce monde. Et ça, c'est aussi la résistance, il y a la résistance de l'Afrique. Les gens se battent là-bas. Et je ne pense pas que nous sommes ici pour philosopher. Mais nous ne sommes pas ici pour philosopher. C'est une façon de se retrouver pour discuter des propositions qui peuvent se faire.
Nous sommes seuls.
Non, et puis pour finir, je vous ai dit, monsieur Pipot, l'accueil de votre venue par la communauté.
Motion d'ordre.
Monsieur
Pipot, c'est le panel qui doit me répondre. Motion d'ordre.
Mais la question, c'est.
De vos livres par la communauté rwandaise.
Je vous dis, là, quand je l'ai écrit en 2003, je connaissais peut-être une centaine de Rwandais. Maintenant, je connais des milliers. J'ai été invité par la communauté rwandaise partout en Europe, en Amérique, aux États-Unis, ici. Je reçois des témoignages incroyables. Que j'aimerais publier chacun de ces témoignages des gens qui ont traversé le Congo à pied, qui ont été attaqués, poursuivis par le FPR sous les yeux des Américains et de l'ONU, mais vraiment des histoires donner des frissons incroyables. J'en reçois des dizaines de personnes qui disent merci d'avoir levé le voile là-dessus, puis regardez mon histoire. Et aucun de ces témoignages n'a été publié. J'en ai publié un peu dans le dernier livre. Alors, l'accueil était très bien. C'est évident que ceux qui ont gagné cette guerre-là, le Fonds Pacifique Rwandais, ils m'en veulent terriblement, comme ils veulent à tous ceux qui essaient de creuser, d'essayer d'en savoir davantage, de qui cherchent la vérité. Alors, il y a une décision cette semaine à Londres d'extrader 4 Rwandais vers le Rwanda, vers le Kigali, qui sont sur des listes que l'FPR a confectionnées lui-même. Et dans cette décision du juge, ils disent que Paul Rusesabagina, l'ancien héros de l'Hôtel Rwanda, celui qu'on a tous dit qui a sauvé du monde, est un criminel. Le juge dit ça, le juge britannique. dans sa décision. Donc, je veux dire, ils peuvent donner ce régime-là avec toutes sortes d'appuis, peut nommer n'importe qui, n'importe quand, puis dire que c'est un génocidaire. Alors, on est, négationniste. Et bon, ceux qui disent, mais peut-être c'est pas ça, ben, ils sont tout de suite baïonnés ou on dit que vous avez dormi. L'accueil pour moi chez les Rwandais était incroyable. Moi, je vraiment, vraiment incroyable. Très favorable.
D'accord. Alors, on s'approche vers la fin.
Malheureusement, moi, je dois partir parce que je m'excuse. Hein.
Alors, M. Kenneth, vous avez une question? Parce que nous sommes presque à la fin.
Ouais, plutôt un bref commentaire, sinon on le permettrait. Quand on examine pourtant la question de solution à la polémique, à la problématique africaine, je crois qu'il faut très bien de constater qu'ici, même à Montréal, il y a et des sociétés lumières et des sociétés fabricants de composants d'arbres, de mines terrestres et tout ça, que l'on voit répandus sur la superficie africaine, que l'on voit employés dans des conflits portant sur le contrôle des richesses telles que le cuivre, l'or, le pétrole et autres. Ici à Montréal, nous avons tous les deux posé avec le vice-président d'une société montréalaise qui est responsable même des massacres de mineurs brebis et qui a fait organiser la chasse de plusieurs chars, d'autres armes, d'autres machines d'assaut pour justement permettre au régime du Congo de faire des tueries contre des gens qui protestaient, qui manifestaient contre un régime pareil. De l'autre côté,
quel Congo?
Le Congo Kinshasa.
Ah, le vrai Congo.
Si. De l'autre côté, on voit à l'écart des aliments une raison principale de la crise, effectivement, qu'on a exigé la cultivation de plantes et autres qui ne faisaient pas nourrir la population, mais qui visaient à satisfaire les plaisirs du monde de l'Europe occidentale et de l'Amérique du Nord. Et alors, tout ceci pour dire que, premièrement, il faut promouvoir ou assister ceux qui sont contre ça. Par exemple, nous-mêmes, au Parti Action Canadienne, nous disons que s'il y a des activités de ce genre qui se passent ailleurs, le droit pénal canadien doit s'appliquer à toute entreprise canadienne qui agisse en tant que criminel. Et dont le comportement identique au Canada serait considéré comme un crime, ça doit s'appliquer quand ces mêmes sociétés s'engagent dans des crimes outre-mer. Deuxièmement,
comme je pense que la pédophilie,
deuxièmement, que la politique canadienne doit être basée sur une coopération fictive et non une coopération où nous pillons et en contrepartie nous donnons des miettes en guise d'aide financière et nous faisons des déclarations avec une petite présentation devant une école plein de petits enfants de race noire pour faire croire aux gens au Canada et ailleurs que nous sommes des grands sauveurs de l'humanité et voici nous donnant des millions de dollars quand en réalité nous avons payé des milliards. Non, ça doit cesser. Alors, le partenariat qui devrait se poser, se développer d'après nous, c'est certes, nous avons la capacité de transformation, vous avez la matière première, alors si nous faisons des partenariats où on va partager avec vous tant les connaissances que les gains, égal à égal. Et nous allons aussi éviter à ce qu'il y ait le dépouillage, le dépaysement et tout ça, et la destruction environnementale et tout ça. Donc c'est un peu ça pour répondre à ta question.
D'accord. Donc, alors, nous avançons à la fin du question hour. Nous sommes à la fin du question hour. Et je voudrais vraiment remercier, au nom du comité d'organisation, tout le monde qui a répondu favorablement à l'invitation de venir à cette journée de commémoration et de réflexion sur la question du Mexico à l'indépendance et à la soirée internationale. Et remercier, dire merci à vous tous et dire merci aussi aux familles qui ont envoyé leurs enfants pour rendre hommage aussi à Philippe et aussi aux éminents panélites que nous avons accueillis et qui commencent parce que je pense que nous avons de la chance de voir que ici à l'hémisphère, dans l'hémisphère nord, nous avons maintenant, nous connaissons des Canadiens et des gens qui connaissent la vérité et qui les mettent même sur les livres. À base, n'est-ce pas, de ces livres, qui devraient, n'est-ce pas, susciter beaucoup de débats et beaucoup d'incertitudes et beaucoup de choses. Moi, je pense que nous avons la chance d'avoir des coordonnées de gens qui ont parlé ici. Il ne faut pas que ce que nous avons commencé finisse aujourd'hui. Ça doit être un début. Parce que quand on lit un livre, chaque jour, la compréhension augmente. Aujourd'hui que nous avons vu Monsieur Alain Benoît en personne et qu'on l'a vu parler, quand on relit son livre, on a une meilleure compréhension. Vous voyez, la première fois que j'avais rencontré Benoît, je n'avais pas peur parce qu'on avait venu de l'ami. Et que je lis son, que je lis son livre, j'avais une meilleure compréhension parce que je connaissais Boniface. Et maintenant, quand il a parlé du livre, que j'ai relié le livre, j'aurais encore une meilleure compréhension. Donc, je pense que ce qui vient de se passer ici, il n'y a même pas moyen de mesurer l'impact que ça va avoir. Mais nous voulons insister sur. Que nous puissions commencer à avoir cette habitude d'acheter des livres et de les lire, pas seulement de les mettre dans les tiroirs, mais de les lire, de téléphoner les auteurs. Et maintenant, on a parlé du micro-organisme, du micro-nationalisme, et pendant le break, on en a parlé un peu. Peut-être la fois prochaine, nous allons nous réunir autour de la journée de l'unité et de l'organisation de l'Union africaine et de l'unité africaine. Donc je pense que nous avons commencé une dynamique et aussi la discussion chaleureuse entre l'Empire britannique et les patriotes américains. Ouais, ce sont des choses sur lesquelles nous devons commencer à lire pour savoir. Nous devons vraiment, nous ne devons plus avoir des raisons. Si par exemple nos aînés, les Lumumba, les autres, quand ils sont partis négocier l'indépendance, ils ont mal négocié la décolonisation. Maintenant, on ne devait plus avoir les mêmes raisons, parce qu'ils étaient limités.
On
ne
devait pas reconnaître l'indépendance et le pays.
Voilà. Donc maintenant, c'est comme ça que cette journée est une journée importante, parce que nous ne devons plus continuer à avoir les mêmes raisons qu'ils avaient. C'était des gens qui venaient de l'Empire du Silence. Au Congo, il n'y avait rien. On ne sait même pas comment les Lumumba même ont compris, ont eu les connaissances qu'ils avaient.
Et ils ont pris la parole au sacrifice de leur vie.
Voilà.
Parce que tu n'avais pas le droit de parler. Moi, j'ai connu cette période.
Voilà. Et
donc, on parlait contre le colonialisme.
Voilà. Donc, maintenant, c'est ce que j'ai dit aux jeunes. Et M. Lumumba, au début, je l'ai bien dit, il avait bien le sens de mortalité et d'immortalité. Ça veut dire que pour ceux qui ne pouvaient pas les vivre longtemps, mais que sa personnalité allait continuer à vivre. Alors maintenant, c'est une nouvelle génération, et nous ne voulons plus voir des jeunes ou des adultes qui se promènent et puis qui disent les mêmes raisons que le monde, qui n'ont aucune connaissance de des choses que nous devons faire. Voilà. J'ai dit, et je vous remercie.